La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bienvenue sur Fréquence T pour un grain de causette consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes au travers de l'exemple du secteur culturel brestois. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est devenue très importante et se trouve désormais portée de plus en plus concrètement par les pouvoirs publics, parmi lesquels les collectivités territoriales. Si de nombreux progrès dans la représentation des femmes dans le champ culturel, artistique et médiatique ont été accomplis, il persiste néanmoins dans ce secteur, qui pourrait sembler épargné de prime abord, un certain nombre d'inégalités, d'inerties et de freins. Un rapport de 2021 sur la question pointe toujours le fait que, bien que les femmes aient été les grandes bénéficiaires de la massification scolaire opérée depuis les années 60-70, elles sont désormais plus nombreuses que les hommes dans les formations de l'enseignement supérieur artistique et culturel, et leur part au sein des professionnels de la culture a progressé depuis 30 ans, elles demeurent toujours minoritaires dans ce secteur d'activité. Les écarts de rémunération persistent, quel que soit le statut d'emploi. Les femmes sont également moins présentes dans les professions qui s'exercent majoritairement sous statut d'indépendant et leurs revenus, qu'ils soient issus de la création, revenus d'artistes, d'auteurs ou du travail salarié, sont toujours inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. Moins programmées dans les lieux de diffusion, moins acquises dans les lieux d'exposition, les œuvres féminines souffrent encore d'une moindre visibilité. Ainsi, les élus et l'exécutif de Brest et de Brest Métropole se sont engagés dans ce combat par la signature en mars 2009 de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et en 2012 par la création d'un plan d'action transversal reposant sur 6 axes. Indépendance économique, conciliation vie professionnelle-vie privée, participation à la vie locale, éradication de la violence et suppression des stéréotypes, échanges internationaux également. Depuis 2008, le monde culturel brestois porte donc ce principe d'égalité entre les femmes et les hommes en mettant notamment à l'honneur spectacles et expositions réalisées par des artistes féminines, en promouvant les manifestations culturelles portant sur ce thème de l'égalité, en érigeant l'art au rang de vecteur d'émancipation ou encore en soutenant des projets artistiques dénonçant les violences faites aux femmes. Tour d'horizon de ce dispositif avec Véronique Abalea, assistante sociale de formation. Elle est chef de projet Accès à la culture, réseau La culture partageons-la, au sein des 2 collectivités brestoises et animatrice de ce réseau d'acteurs culturels, mais aussi de professionnels issus d'horizons divers, jeunesse, handicap, insertion, qui réfléchissent ensemble à la démocratisation culturelle et luttent contre les différentes formes de ségrégation au travers de projets concrets. Bonjour Véronique.
Bonjour Thibault.
Alors Véronique, une première question avant d'évoquer les initiatives de la ville et de la métropole brestoise, quand même quelques considérations d'ordre général sur l'égalité femmes-hommes. 61% de femmes se retrouvent sur les bancs des filières d'enseignement supérieur sur la culture. Si l'accès au premier emploi est peu différencié par genre, on ne retrouve globalement que 4 personnes sur 10 parmi les employés des professions culturelles. Comment analysez-vous cet état de fait? Quelles peuvent être les causes de cette situation?
Alors, je trouve que c'est une excellente question et qu'elle revêt au moins 2 dimensions. D'une part, la question du nombre de femmes dans les formations et d'autre part, la question de l'insertion professionnelle des femmes dans le secteur de la culture. En ce qui concerne le nombre de femmes dans les formations, on peut bien sûr y voir un phénomène de rattrapage dans des filières qui auront souvent été peu ouvertes, voire carrément interdites par le passé. On peut aussi s'interroger sur le besoin de se légitimer en tant que professionnel. Les femmes ne sont pas d'emblée légitimes dans le secteur professionnel, dans le secteur culturel, notamment dans les métiers de la création. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus légitimant qu'un diplôme? En ce qui concerne les difficultés d'insertion professionnelle dans ce secteur, elles sont certainement multifactorielles. Mais moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que déjà, notamment dans les métiers de la création, les diplômes ne sont pas toujours nécessaires. Donc le fait d'être diplômé ne permet pas forcément de rentrer dans ces métiers-là. Ensuite, les réseaux professionnels sont essentiellement masculins. C'est parfois difficile pour les femmes d'y trouver leur place. Et puis les processus de recrutement, notamment quand il s'agit de cooptation, sont peu favorables aux femmes. On recrute un peu des gens comme soi, donc c'est plus compliqué. D'ailleurs, l'exemple des recrutements à l'aveugle, les recrutements de musiciens, de musiciennes, c'est assez frappant lorsque le recrutement se fait à l'aveugle. Il y a à peu près 50% d'hommes et de femmes retenus. Lorsqu'ils se font de visu, il y a beaucoup moins de femmes. Donc il se joue bien quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'inconscient, sans doute de l'inconscient, mais quelque chose qui a trait au sexe et non pas aux qualités de musicien, de musicienne.
Alors, même constat sur la rémunération et la question de l'accès au poste de direction de l'administration culturelle et de ses opérateurs, qui témoignent également d'égalité persistante. Même constat toujours pour les œuvres des femmes qui restent moins visibles, moins acquises et moins programmées que celles des hommes. Là aussi, vous avez peut-être une réaction pour nos auditeurs.
Alors, on pourrait dire aussi elles ont moins accès aux moyens de production que les hommes, les femmes, donc, et qu'elles sont beaucoup moins récompensées que les hommes. Localement, c'est un constat qu'on ne partage pas forcément, en fait. En tout cas, pour ce qui est de l'accès au poste de direction, on n'est clairement pas sur ce genre de difficulté. Puisque,
oui, ce n'est pas le cas à Brest, hein, je crois.
Non, ce n'est pas le cas à Brest. Sur les 4 équipements labellisés par le ministère de la Culture, 3 sont dirigés par des femmes. Et la quasi-totalité des postes de direction à la direction culture, animation, patrimoine des collectivités est féminin. Donc là-dessus, on n'est clairement pas du tout là-dessus. Hein. Pour ce qui est de la visibilité, de l'acquisition, de la programmation, etc., je répondrai oui, mais. Oui, il y a une vraie disparité, on l'a constaté, mais on mène et on continue à mener un travail de sensibilisation avec les acteurs et les actrices du secteur, et qui nous ont tous et toutes amenés à réfléchir, à prendre conscience de ces disparités, puis à écrire des feuilles de route de l'égalité très pragmatiques, qui s'engagent dans des actions concrètes, qui répondent à des objectifs à atteindre, et qui sont assortis d'indicateurs de réussite et de calendrier pour parvenir à plus d'égalité. Donc cet ensemble de feuilles de route, il y en a une quinzaine, qui viennent d'équipements, d'associations, d'associations conventionnées de la collectivité. Elles forment ce qu'on a appelé la feuille de route partenariale 2006-2020 de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur culturel brestois. Donc on avance.
D'accord. Alors, en mars 2009, hein, là on va un petit peu revenir en arrière pour expliquer à nos auditeurs un peu la genèse de cette initiative. En mars 2009, Brest Métropole signe la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. C'est le point de départ d'une initiative qui va se dérouler à l'échelle de votre territoire. Pouvez-vous en dire plus à nos auditeurs sur les engagements de cette charte ?
Alors, la signature de la charte, déjà, c'est le signe d'un engagement politique fort des élus en faveur de l'égalité. D'ailleurs, c'est un engagement qui avait commencé un petit peu en amont, puisque dès 2008, il y avait eu la création d'un poste à la communauté urbaine à l'époque, un poste de vice-présidente à l'égalité. Donc c'est même antérieur à la signature de la charte. Alors cette charte, c'est une charte qui a été rédigée dans le cadre d'un projet mené par le Conseil des communes et régions d'Europe en collaboration avec les partenaires, et elle est soutenue par la Commission européenne. En fait, cette charte, elle invite les collectivités territoriales à utiliser leur pouvoir et leur partenariat en faveur d'une plus grande égalité pour tous et toutes. C'est donc à la fois une prise de position publique sur le principe et un engagement à mettre en œuvre sur le territoire les préconisations qui sont définies dans la charte. Donc pour ça, en fait, les signataires ont 2 ans pour mettre en place un plan d'action local avec des objectifs, des priorités, des mesures adoptées et des ressources affectées afin de rendre cet engagement tout à fait concret, de décliner concrètement. Donc voilà, c'est à la fois cette charte, un engagement et un cadre.
Oui, voilà, c'est pas simplement une déclaration de bonnes intentions. Hein.
Ah non, non, non. Vous parliez des 6 axes tout à l'heure. Les 6 axes, ils sont clairement dans la charte. Les 6 axes développés, ils sont dans la charte. Donc on a vraiment 2 choses. À la fois l'engagement des politiques sur la mise en œuvre de la déclinaison de cette politique localement et l'engagement via le plan d'action très concrète pour faire progresser les difficultés d'égalité, alors sur différents axes.
À la suite de cette signature, de la signature de cette charte, votre territoire a commandé un état des lieux avec le département de sociologie de l'Université de Bretagne occidentale. Pouvez-vous nous en dire plus sur les résultats de cette étude interne et la méthodologie que vous avez adoptée par la suite ou que peut-être les universitaires vous ont aussi incité à adopter ?
Alors, ces études, il y en a effectivement eu 2. Une qui a été menée auprès des directions de la collectivité sur les actions menées en faveur de l'égalité dans les politiques publiques. et l'autre qui a été menée auprès des agents sur le travail et la vie quotidienne. Les études, elles sont extrêmement importantes parce qu'en fait, c'est ce qui permet une prise de recul sur le sujet. La grande difficulté du travail sur l'égalité femmes-hommes, c'est qu'on a tous un avis là-dessus, puisque par définition, on a tous au moins un sexe, et donc on est tous concernés. Il y a des sujets sur lesquels on est moins concernés, sur lesquels on travaille, mais l'égalité, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous. Donc on a un avis, on a des préjugés, voilà. Donc c'est extrêmement important à un moment de se poser, d'objectiver les choses. Dire voilà, c'est comment chez nous, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on a l'impression est-ce que les agents ont l'impression de vivre des inégalités en fonction du sexe ou pas? Enfin voilà. Tout ça, c'est ce qui permet de comprendre ce qui se passe, sortir de la vie personnelle et d'aller vraiment faire un travail professionnel et de construire ce fameux plan d'action. Donc, si on démarre sans étudier la problématique localement, on prend vraiment le risque de passer à côté, en fait, ce qui serait tout de même dommage. Donc, ces études, elles nous ont permis de... ça a été notre socle, en fait, pour la mise en œuvre des politiques égalité. Ça a été le socle sur lequel on a appuyé la construction de notre plan d'action. Alors, un plan d'action, pourrais-je dire, en tant qu'employeur, dans les politiques publiques de notre compétence communale et de nos compétences communales et communautaires, et puis sur l'animation du territoire. Et le choix qui a été fait, ça a été une approche intégrée du genre.
Alors, justement, vous me tendez la perche. La stratégie brestoise que vous avez donc adoptée, c'est basée sur l'approche intégrée du genre que vous citiez, ou gender mainstreaming, approche qui a débouché chez vous sur 6 axes forts qu'on évoquait tout à l'heure. Pourriez-vous développer quelque peu ce concept?
Alors, je vais d'abord reprendre la définition du centre Aubertine Leclerc avant d'avancer un petit peu sur la façon dont on a travaillé là-dessus. Alors, le centre Aubertine Leclerc nous dit qu'une approche intégrée du genre, c'est une approche qui, tout au long du processus d'élaboration d'une politique publique ou d'une action, vise à s'interroger sur la situation respective des femmes et des hommes de manière préventive et transversale, et sur les effets différenciés que les mesures pourraient avoir sur l'un ou l'autre des sexes. C'est-à-dire que c'est une approche qui nous pousse à nous interroger sur les effets de nos actions. Est-ce que lorsque je monte une action, lorsqu'on monte une politique, ça va avoir le même effet pour les hommes ou pour les femmes? Est-ce que ça va provoquer des effets différents? Comment ça va se passer? Alors, un exemple, mettons, ce qui n'arrive jamais, bien sûr, que dans un quartier, on ait quelques garçons qui fassent un peu le rodéo. Bon. Et qu'à côté de ça, on est dans le même quartier des filles qui ne sortent pas trop de chez elles. Et on peut se dire, on va faire une action, on va proposer une action sportive sur le quartier, ça va être super. Les garçons vont être un peu canalisés et les filles vont sortir de chez elles. Donc c'est une action a priori égalitaire, tout le monde y a accès, il n'y a pas de question de sexe dans l'affaire, il suffit de venir. Or, on se rend compte que seuls les garçons viennent. Donc ça pose question, pourquoi est-ce que les filles ne sont pas venues? Et donc, si on creuse, on peut se rendre compte que, par exemple, les filles ne seront pas venues parce que les garçons ont une mauvaise... c'est des idées que je lance un peu en l'air. Mais les garçons ont une mauvaise réputation, elles veulent pas avoir une mauvaise réputation parce qu'elles auront été vues avec eux. Parce que elles sont à un âge où le corps, c'est important, et puis se mettre en tenue de sport face aux autres, elles n'ont pas envie. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Et finalement, on a proposé une action qu'on pensait égalitaire qui, finalement, ne profite qu'à un seul des deux sexes. Le fait de travailler en approche intégrée du genre, on va se poser la question dès le début, en fait. Comment faire pour que les deux sexes puissent intégrer une action qui permette aux unes de sortir de chez elles et aux autres d'être un peu plus calmes? C'est ça l'intérêt de l'affaire.
D'accord.
Je sais pas si c'est clair, si ça vous...
Oui, très clair. Ne laisser personne de côté, en tout cas, et voilà prévoir...
Fait, ça permet de mieux appréhender le genre dans notre quotidien, dans nos actions. Donc, ça évite aussi les effets d'ensemble qui sont trompeurs. C'est ouvert à tout le monde, donc c'est égalitaire. Là, c'est un effet trompeur. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'intention de séparer les gens. Mais, dans les faits, on n'a pas mis en face les conditions pour qu'ils puissent tous venir.
Oui, donc c'est très intéressant parce que ça amène à repenser chacune de nos actions publiques finalement.
Tout à fait. Un petit peu aussi. Il faut observer, il faut former. Il faut former les agents parce qu'il faut comprendre les mécanismes qui sont complètement inconscients, qui conduisent à créer des inégalités. Il faut sensibiliser. Il faut s'interroger sur les impacts de ce qu'on fait, sur les impacts des projets, sur les bénéficiaires, les différences de pratiques, parce que quand on est un homme et une femme, on ne fait pas forcément les mêmes choses. Il faut communiquer. Notamment en évitant de reproduire les stéréotypes de genre dans notre communication. C'est pour ça qu'en 2016, d'ailleurs, la collectivité a signé la convention avec le Conseil à l'égalité pour une communication publique sans stéréotypes de genre. Et puis ça permet de donner à voir ce qu'on fait, pour donner aussi envie à d'autres collectivités, aux associations, etc., de le faire. Et puis, il faut budgétiser, il faut réfléchir à son budget et l'impact que notre budget peut avoir aussi en termes d'égalité. C'est ce qu'on appelle la budgétisation sensible au genre.
Alors justement, Véronique, vous avez étudié, vos missions vous ont amené à aussi porter une focale sur les budgets de la direction culturelle. Qu'est-ce que vous a appris cette analyse un petit peu pointue des budgets qui étaient consacrés à la culture à Brest?
Alors ça nous a appris plein de choses. Déjà qu'on fait des actions qui participent à l'égalité des femmes et des hommes. Ça fait du bien de se le dire aussi, de s'en rendre compte. Mais on s'est aussi rendu compte que inconsciemment, nos actions ne produisent pas toujours des effets qui vont dans le sens de l'égalité. Ce que je disais tout à l'heure, on ne construit pas une action avec des objectifs inégalitaires. Mais pour autant, elles ne favorisent pas forcément l'égalité. Par exemple, vous faites intervenir des experts pour des ateliers, pour des conférences, enfin, que sais-je. Enfin, voilà. Si vous avez autant d'hommes que de femmes, c'est parfait, c'est égalitaire. Par contre, si les femmes ne sont pas invitées pour les interventions prestigieuses, en général les plus longues, les plus visibles, les mieux rémunérées, alors là non, on ne participe pas du tout, l'action ne participe pas du tout à améliorer l'égalité. Et ça se voit dans les budgets. Si on reste simplement sur le premier chiffre, autant d'hommes que de femmes, ok. Si on va creuser en disant, les hommes ont perçu combien? Les femmes ont perçu combien? Ah, là, il y a quelque chose. Ça permet de se rendre compte, en fait, très concrètement, de ce qu'on fait et des incidences que ça a. Et c'est intéressant, parce que ça permet de se dire, la prochaine fois, on fera attention non seulement à avoir le même nombre d'intervenants à peu près des deux côtés, mais en plus d'équilibrer plus sur que chacun...
Sur l'investissement, oui.
Voilà, qu'il y ait aussi des femmes qui soient sur des interventions pointues, etc., etc. C'est pas d'un côté l'expertise pour les hommes et d'autre côté des choses plus simples pour les femmes. Bon, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais c'est intéressant parce que là, ça finit par sauter aux yeux. On se dit, oui, effectivement, il y a un truc et je peux faire quelque chose. Ça, c'est bien. Donc, ça a aussi un effet pédagogique, en fait. C'est un effet pédagogique extrêmement important et ça permet de voir des pistes d'amélioration. Alors, on a travaillé sur la budgétisation sensible au genre et en même temps, on a mené une étude avec nos partenaires du secteur culturel. On était à peu près une vingtaine d'équipements, d'associations et de services de la collectivité qu'on travaillait sur un état des lieux dans notre secteur de l'égalité. Donc, sur un an, de septembre 2017 à août 2018, l'ensemble des programmations culturelles de Brest, du territoire, ont été passées, en fait, au peigne fin à l'aide de grilles de recueil d'informations qui avaient été construites par les partenaires eux-mêmes, avec les mêmes items pour pouvoir faire des comparatifs, en fait, tout simplement, pour avoir des éléments qui soient un peu parlants. Et pour avoir surtout une photo, savoir comment c'est chez nous. Est-ce que c'est mieux qu'ailleurs? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce qu'on a beaucoup de chemin à faire? Est-ce qu'on est égalitaire? Est-ce qu'on n'est pas? Donc on a mené ce comptage genré pendant un an, ce qui est long, ce qui est très long. Et au bout d'un an, on a arrêté, on a analysé, on a clos les comptes et on a analysé. Et en croisant ces deux études, on a réussi à avoir vraiment une photographie à un moment donné de l'égalité. Alors, ça a des limites, bien évidemment, puisque c'est un instant T. Donc cette année-là, peut-être qu'il n'y avait aucune proposition avec deux chorégraphes femmes, par exemple. L'année d'avant, il y en a eu trois. Donc on le sait, c'est un moment donné. Mais ça permet toujours de sensibiliser, et c'est toujours pédagogique, et ça permet surtout de voir vers où aller. Et c'est à partir de là qu'on a construit notre fameuse fiche de route dont je parlais tout à l'heure, notre fiche de route partenariale, où chaque équipement et chaque association et chaque service de la collectivité engagé là-dedans a construit elle-même, enfin ils ont construit, chacun a construit ses objectifs, ses critères d'évaluation et son calendrier. Donc, évidemment, déterminer ses actions. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est tout à fait adapté au territoire, à la situation, à la réalité de chacun. C'est pas une injonction qui vient du haut. C'est vraiment quelque chose qui est complètement participatif et tellement. Au départ, on travaillait essentiellement avec les responsables de structures qui nous ont dit « il faut absolument que nos équipes travaillent avec nous ». Donc ça a été vraiment pensé avec les équipes. Et là, on a de fortes chances pour que ça fonctionne, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant.
Oui, alors justement, sur ce travail horizontal, depuis 2016, des agents de la direction culture, animation, patrimoine de votre collectivité se forment en participant à la formation « Concevoir et mettre en place des actions » et projet égalitaire pour les habitants, qui est proposé par la DRH de la ville de Brest. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces dispositifs de formation professionnelle qui accompagnent ce dispositif ?
Alors en fait, il y a deux formations d'ailleurs qui sont proposées par la DRH. Il y en a une première qui est sur les violences sexistes et sexuelles et qui est proposée aux encadrants chez nous. Et puis la deuxième sur concevoir et mettre en place des actions et projets égalitaires pour les habitants. C'est toujours cette même chose. On est élevé dans une société qui est inégalitaire. On a acquis ça, enfin c'est en nous. Et il faut bien qu'il y ait un moment pour pouvoir travailler dessus, qu'on puisse être sensibilisé, qu'on puisse travailler sur les processus inconscients, qu'on puisse réaliser qu'on a des processus qui nous mènent en fait à inconsciemment à prendre des postures ou à mener des actions qui sont inégalitaires ou porteuses d'inégalités. Donc c'est un temps où on peut discuter, on peut parler de tout ça, on apprend, on nous parle des enquêtes qui ont été faites, on nous donne des résultats d'enquête, on a aussi des partenaires qui viennent expliquer ce qu'ils font et comment ils mettent les choses en place. Et ça permet d'abord, créer un réseau en interne de gens qui sont intéressés par le sujet et qui peuvent s'épauler, parce que quelquefois, c'est un peu, c'est pas toujours très simple comme sujet, donc c'est bien d'avoir des gens avec qui on peut parler, et ça permet surtout de réfléchir beaucoup plus loin que l'image préconçue qu'on peut en avoir. Et ça, c'est vraiment fondamental.
Différentes directions culturelles se sont engagées sur des actions égalitaires en termes de programmation. Quelle forme d'évaluation pour ces engagements qui ont été pris ?
Alors, dans notre fameuse feuille de route dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, il y a des indicateurs de réussite qui ont été déterminés, qui ont été placés en face évidemment des objectifs. Et donc tous les ans, nos partenaires et nos services vont nous faire remonter à la direction leurs indicateurs remplis pour qu'on puisse voir progressivement sur le territoire l'évolution en fait de l'égalité. Donc, tous les ans, normalement, on doit recevoir ces éléments. Alors, c'est moi qui vais les recevoir, d'ailleurs. Donc, je relancerai si je ne les ai pas, de manière à ce qu'on puisse avancer. C'est extrêmement important. Alors, c'est vrai qu'on l'a fait. Alors, notre feuille de route est sur 2020-2026. C'est important d'avoir un peu de temps, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des moments où on a des opportunités artistiques, par exemple, qui ne collent pas forcément exactement avec les objectifs. Parce qu'on a une proposition incroyable, on ne pensait pas et on ne va pas la laisser passer en disant « non, ça ne rentre pas dans l'objectif ». Donc c'est quelque chose qui s'inscrit sur plusieurs années, de manière à pouvoir compenser d'une année sur l'autre si nécessaire. D'autre part, on voulait des objectifs absolument réalistes, parce qu'on n'est pas tout seul. On est dans un écosystème qui n'est pas non plus égalitaire, c'est-à-dire que quelquefois, on n'a pas la main-d'œuvre entre guillemets féminine. Si on n'a pas de technicienne, si on n'a pas de musicienne,
oui.
Ou si on n'a pas d'historienne, on ne peut pas arriver à 50-50, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des objectifs d'évolution qui soient réalistes. C'est-à-dire que si c'est 10% d'évolution par an, ce sera déjà énorme. Ou tous les deux ans, je ne les ai plus en tête. Mais c'est déjà énorme. On dépend vraiment de cet écosystème-là. Donc, on est obligé de travailler avec. Ce qui est important, c'est de continuer à accentuer. Et puis, on n'est pas que passif, on peut dire aussi, quand on est dans la musique, par exemple, au tourneur, moi, dans 3 ans, je voudrais avoir plus de femmes musiciennes pour pouvoir produire plus de femmes, montrer plus de musiciennes sur la scène, etc. C'est des choses qui sont entendues aussi. Alors, on peut pas le faire du jour au lendemain, parce qu'il faut aussi que les tourneurs, etc., puissent se retourner, changer aussi leur manière de travailler, la faire évoluer, tout du moins. Mais c'est des choses qui se travaillent dans le temps. Donc, moi, je crois fortement qu'effectivement, ça va évoluer. Et qu'on va le voir.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec l'ensemble de cette démarche dans les services qui ont pu être concernés ?
Alors, c'est une démarche qui n'est jamais neutre. C'est toute la complexité de l'affaire. Ce que je disais, c'est qu'on est tous concernés. On nous renvoie chacun, chacune, à notre propre perception ou non-perception du problème, à nos préjugés. Donc, parfois, oui, ça peut être compliqué. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est rarement vécu comme un sujet prioritaire. Donc c'est pas toujours simple non plus, parce que c'est clairement une charge de travail supplémentaire qu'on demande aux collègues, donc c'est pas toujours très simple. Ça oblige à être persuasif, et surtout, il faut bien faire comprendre qu'on n'est pas dans le militantisme. On est vraiment dans la mise en place d'une politique. C'est une politique de la collectivité, point, comme une autre. C'est pas on a décidé un beau jour qu'on allait militer pour l'égalité. Non, on a des élus qui ont voté une politique, qui ont décidé un certain nombre de choses. On l'applique. Donc, et c'est très important. Et là, je crois qu'on est vraiment à un moment un peu clé. On passe comme ça d'un sujet qui a été très militant, qui l'est d'ailleurs toujours, à un sujet qui devient professionnel. et c'est deux mondes différents. Et là, on nous demande, comme on va nous demander, je ne sais pas moi, pour mon secteur, la politique d'accès à la culture, et bien là, c'est la politique d'égalité, point. C'est une politique de la collectivité. Ensuite, à Brest, on a de la chance. On a des partenaires qui sont très impliqués sur le sujet, aussi bien en interne qu'en externe. Alors ça, c'est vraiment très agréable et c'est facilitant. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont entraîné leurs équipes, qui montrent bien qu'ils sont vraiment très, très, très acteurs de la démarche, et ça aide bien. Travailler de manière participative, on a tout travaillé de manière participative, absolument tout. C'est extrêmement positif parce que chacun travaille avec sa réalité et ses moyens, il s'engage sur ce qu'il peut engager, et c'est pas une injonction qui tombe du ciel, mais c'est vraiment une invitation à avancer ensemble pour que ça fonctionne, et puis ça, quand on invite les gens à avancer ensemble, ça marche plutôt bien en fait.
Alors pour conclure, parce que on arrive au bout de cet entretien, Véronique, après avoir lancé un tel plan d'action, comment la ville et la métropole de Brest vont pouvoir se renouveler finalement, prolonger cet effort autour de l'égalité femmes-hommes ?
Oh, ben, y a encore plein de choses à faire. En 6 ans, on n'arrive pas, ou 6 ans ou plus, ou 10 ans, malheureusement, on n'arrive pas à l'égalité, donc on a encore plein de choses à faire. Alors, sur le domaine de la culture, que je connais plus, par exemple, on pourra travailler avec les associations qui ne sont pas encore dans le mouvement. Pour l'instant, on a travaillé avec les associations conventionnées. Maintenant, il y a toutes les autres. On pourra travailler sur les résultats qu'on va avoir. On parlait de résultats tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce qu'il va falloir mettre l'accent, etc. Et puis, le grand absent pour l'instant de ce travail, c'est le public. Parce que c'est pareil. Est-ce que c'est un public féminin? Est-ce que c'est un public masculin? Comment est-ce qu'on arrive à une égalité dans le public pour que chacun se sente à sa place quand il va à un spectacle, à une exposition, etc. Donc on a encore du boulot devant nous.
Eh bien Véronique Abouléa, merci mille fois de nous avoir accordé cet entretien. J'insiste sur ce point, ce projet exemplaire par justement son caractère local et participatif aura inspiré nos auditeurs. Et puis moi, je vous retrouverai très prochainement, après les vacances du mois d'août, pour de prochains Grains de Causette sur Fréquence T, la web radio des territoriaux. À très bientôt.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.